Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La semaine dernière s'est achevée la Fashion Week de Paris pour la saison automne-hiver 2013-2014. Visiblement, cet événement a inspiré Franck Ferrand un sujet d'émission. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons en effet parler de haute couture aujourd'hui, de mode, d'élégance, de créateurs, de tendances. Tout ça au cœur de l'histoire, évidemment.
Alors en ce moment et jusqu'au 6 juillet se tient à l'Hôtel de Ville de Paris une exposition intitulée Paris haute couture, réalisée par le musée Galliera, qui a fait un choix parmi ses collections et présente une
fabuleuse collection dont on ne dit jamais à quel point elles sont immenses et extraordinaires.
Exactement, il présente effectivement une centaine de modèles de robes haute couture.
Et oui, histoire de rappeler la place essentielle de Paris dans l'invention, dans le développement de cette notion de haute couture. Ben, nous allons justement y revenir dans un court moment avec mes invités.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Couture, on le répète assez souvent, est une invention française et pourtant, le père de cette notion très parisienne est un Anglais, Charles Frederick Worth, on l'appelait Wort à Paris. Il est vrai qu'il s'était installé en France dès 1845, il n'avait pas 20 ans alors. C'est à Paris, 7 rue de la Paix, qu'il a ouvert sa maison de couture après avoir œuvré pour les plus grandes dames de différents régimes, dont l'impératrice Eugénie bien sûr et la princesse de Metternich qui allait faire sa publicité. Wort a eu l'idée le premier de présenter ses créations comme des œuvres d'art, de constituer une collection différente pour chaque saison et de la présenter sur des mannequins vivants. C'était les tout premiers défilés de mode et ça dès 1890. Alors après lui, les sœurs Callot, avenue Matignon, Jean Patou près de la Concorde, Jeanne Lanvin au Faubourg Saint-Honoré vont définitivement asseoir le chic parisien. Mais s'il fallait associer un nom à la haute couture, je retiendrai celui d'un élève de Wort et de Jacques Doucet, Paul Poiret, l'empereur de la mode, celui qui le premier a libéré les femmes en supprimant le corset et en inventant la taille haute. Nous lui consacrerons bien sûr la place qu'il mérite dans le cours de cette émission. Mademoiselle Chanel et ses tailleurs, quoique vous verrez que... Elle ne s'est pas contentée de faire des tailleurs dans sa vie. Et puis bien sûr Christian Dior, tout à l'opposé avec l'ampleur de ses jupes New Look. Et puis l'épure d'Hubert de Givenchy. Tout cela vont bousculer la couture avant la génération des surdoués des années 60, les Courrèges, Cardin et Saint-Laurent bien sûr. Voici ce que déclarait Yves Saint-Laurent sur Europe numéro 1. En janvier 1958, il parlait à Julien Besançon de sa première collection.
C'est une ligne qui est basée sur la construction de la ligne, de la pureté, l'équilibre de la robe surtout.
Oui, je comprends, ce sont des mots que vous avez répétés 100 fois depuis ce matin, mais est-ce que c'est une collection pour vous du souvenir de Christian Dior, ou est-ce que c'est une collection que vous avez voulu absolument affranchie de tout ce que vous aviez appris avec Christian Dior?
Ça a été fait dans le même esprit, dans le même style, dans la même technique.
Vous vous en trouvez satisfait après cette première présentation?
Je n'ai pas à me plaindre.
Alors à peine une décennie plus tard, en 1967, André Courrèges, notre voisin rue François 1er, tenait un discours assez différent au micro de Guy Corville.
J'essaie d'habiller une femme et la femme elle vit toute la journée, donc il faut essayer de traduire sa pensée, sa volonté d'être à n'importe quel moment, sa volonté d'être dans le coup, parce que c'est ça, d'être au jour le jour et plutôt essayer de ne pas être à la remorque et si on pouvait être pour demain. Je trouvais que la couture, ou plutôt le vêtement, était très retardé. Et c'est pas une révolution, c'est une évolution.
Vous voyez, cette évolution de la haute couture, on passe à la couture et au vêtement même, puisque c'est l'expression, le terme qu'emploie Courrèges. La relève portera les noms de Valentino, Lacroix, Lagerfeld. Au passage, la haute couture aura changé de destination. D'une fin en soi, elle sera devenue une sorte de vitrine pour les marques, un élément de prestige. Et du reste, si Paris reste une place éminente, et disons-le, l'épicentre de cette galaxie, elle n'est plus, loin s'en faut, l'astre unique du monde de la mode, New York, Milan, entre autres. Et puis bien sûr, un certain nombre de villes émergentes, on va aussi en parler tout à l'heure, n'ont plus grand-chose à envier à Paris, sinon l'ancienneté évidemment, sinon l'antériorité. L'histoire, que voulez-vous, toujours l'histoire, quand les Français comprendront-ils que c'est notre plus grand trésor? Dans un instant, en compagnie de mes invités, je vous propose de revenir sur un siècle et demi de chic, d'élégance, de créativité, de rêve aussi. Voici, en avant-goût de mon récit de tout à l'heure sur le New Look, ce que Christian Dior lui-même disait lors d'une conférence qu'il donnait en 1957 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Je le cite, « Il n'y a pas plus de futilité dans la mode que dans la poésie ou la chanson. Les siècles passent et avec eux, la mode prend une sorte de dignité. Elle devient le témoin de son époque. »
Avant Chanel sur Europe, un extrait de la BO du film d'Anne Fontaine avec Audrey Tautou dans le rôle de la créatrice de mode. A tout de suite pour Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et vos invités, Yann Kerlo, qui a travaillé plus de 15 ans dans le domaine du luxe et de la mode. Il est auteur du livre Les secrets de la mode chez Perrin.
Bel ouvrage qui vient de paraître. Il est en librairie déjà.
Et Fabrice Léonard, qui est journaliste spécialisé mode au Point.
On ne présente plus Fabrice Léonard. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'essayer de nous faire comprendre d'où vient cette haute couture. Parce que ça paraît évidemment une évidence. Ça fait partie de nos références et de notre monde aujourd'hui. Yann Kerlo, mais c'est une invention relativement récente. C'est une invention qui se fait à Paris, mais qu'on doit à un Anglais. C'est assez étrange.
Effectivement, mais on peut dire aussi qu'il y a eu un démarrage d'une passion pour la couture au siècle précédent, avec Marie-Antoinette et Rose Bertin, il ne faut pas l'oublier.
Rose Bertin qui était non seulement la modiste, mais qui était la marchande de mode de la reine, en fait.
Absolument, c'était la marchande de mode de la reine, mais ce qui est très important à dire, parce qu'on va le retrouver avec Vort tout à l'heure, c'est quelqu'un qui avait une idée de la souveraineté de la femme, comme l'aura Vort avec l'impératrice Eugénie. Et au fond, Vort est dans le droit fil de Rose Bertin, si on peut employer cette expression.
De fil en aiguille,
absolument. Mais on a exactement la même idée de faire rêver les gens autour d'un souverain ou autour d'une femme d'exception, comme l'a été à un moment donné l'impératrice Eugénie.
Ah oui, on peut dire que ces femmes sont des porteuses de mode, en quelque sorte. Elles sont les ancêtres de ce que sont aujourd'hui les top modèles ou les très grandes célébrités d'Hollywood qui, évidemment, font la gloire et la fortune de certains créateurs.
Alors, à un moment donné où il n'y avait pas Hollywood, il y avait la monarchie.
Donc,
dans le cas de Vort, il a eu, en fait, deux égéries, à la fois l'impératrice d'Autriche, Sissi, dont il a dessiné les vêtements pour son couronnement de reine de Hongrie, et puis également, il a dessiné les vêtements de Sissi pour le fameux tableau de Winterhalter. Donc on a tout un prolongement et en même temps une internationalisation de la mode qui est très importante déjà à cette époque-là.
Et pourquoi s'installe-t-il? On est à la toute fin de la monarchie de Juillet. Pourquoi est-ce qu'il s'installe à Paris, ce Vort, justement? C'est qu'il y a, déjà une sorte de primauté des ateliers parisiens, Fabrice Léonard?
C'est pas une primauté, mais il y a un je ne sais quoi à Paris qui fait que depuis la création ou l'invention de la haute couture jusqu'à aujourd'hui, quasiment tous les créateurs français et internationaux ont tous fait un passage par Paris. Il y a ce qu'on appelle un je ne sais quoi. Tout le monde vient pendant 10 jours. On en parlait tout à l'heure. Les défilés de prêt-à-porter féminin sont terminés le 10 mars dernier.
Oui,
C'est 9 jours pleins et il y a toutes les nationalités. Acheteurs, journalistes, créateurs, bien sûr, mannequins, coiffeurs, maquilleurs. Donc c'est Paris, il y a un je ne sais quoi.
Vort va être à l'origine de la fondation de la chambre syndicale aussi. C'est très important, cette chambre syndicale de la haute couture.
Oui, parce que ça permet de structurer et de donner des règles peut-être à des sociétés qui commençaient à gagner de l'argent et qui avaient besoin effectivement de règles et de structures les unes par rapport aux autres.
Alors quand il est arrivé en France, Vort, il était tout jeune, il avait à peine 20 ans.
Il avait 20 ans et il était promis à une destinée tout à fait différente. Il aurait dû être avocat comme son père, son grand-père. Et il y a eu des problèmes familiaux très importants. Son père a été ruiné. Sa mère s'est retrouvée dans une situation très complexe. Il est d'abord parti pour Londres où il a travaillé dans une imprimerie. Donc il n'avait rien à voir ni avec le luxe, ni avec la mode et encore moins avec la haute couture. Et ensuite, il est arrivé à Paris. Et il est entré comme commis dans une maison.
Tu vois, il... tissu. Hein.
Une maison de tissu. Donc, il a déjà commencé à se familiariser un peu avec la question. Et puis, il avait beaucoup de talent. Et c'est lui, donc, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui va inventer, au fond, le premier défilé de couture avec des mannequins qu'on appelait à l'époque des sosies.
Alors, vous racontez comment est née l'idée, d'ailleurs. C'est assez fort. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, ça naît par hasard, quasiment.
Ça naît par hasard. Il y a une cliente qui est dans le magasin de la maison Gagelin, où Wörth travaille, et elle demande à ce qu'on lui présente un tissu, et Wörth a l'idée de présenter ce tissu sur une des vendeuses qui ressemble à peu près la même morphologie que la cliente, et donc ils vont trouver cette idée épatante. Cette dame va acheter la pièce de tissu, et ensuite, quand il va s'installer, il va demander à ses fameux sosies de faire des défilés deux fois par semaine pour présenter les différents modèles de la maison.
Donc ça ne s'était jamais fait, bien entendu.
Ce qu'on avait vu,
puisque vous parliez de Rose Bertin et de la reine Marie-Antoinette tout à l'heure, ce qu'on avait vu même dès le XVIIe siècle avec Madame de Montespan, c'est qu'on puisse faire essayer une très belle robe à une servante qui présentait à peu près les mêmes critères de morphologie, là aussi. Mais ça restait tout à fait dans le cadre d'une domesticité à domicile, si je puis dire. Là, on a des mannequins, des sosies, comme vous dites, qui viennent se mettre à la disposition des clients. D'ailleurs, ce tout premier sosie, Marie Vernet, il va finir par en faire sa femme, Wörth.
Il va la trouver tellement belle qu'il va l'épouser, donc l'histoire se finit bien. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il va organiser ses défilés au sein de sa maison et en faire une sorte de système de présentation des collections de couture.
Là encore, l'idée de créer une maison qu'il installe rue de la Paix, évidemment, dans ce qui à l'époque est une toute nouvelle rue, extrêmement luxueuse déjà. Un sens de la communication, on dirait aujourd'hui, chez cet homme-là.
Mais je pense que ça a été très important immédiatement et pour l'ensemble des maisons, pas seulement les maisons de couture, mais aussi les maisons de joaillerie, il fallait avoir une adresse. Il fallait être à Paris et dans une artère qui était une artère dite porteuse, en tout cas où il y avait tous les grands noms.
Alors on va voir tout ce que Wörth va inventer et puis bien entendu ceux qui vont arriver juste après lui vont reprendre ou modifier, parce que c'est tout le principe de la mode évidemment, c'est toujours créer, changer, se distinguer. C'est après tout le secret de ce métier-là.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et nous sommes précisément au cœur du luxe et de la volupté aujourd'hui sur Europe 1. Nous parlons haute couture, Franck.
Et nous parlons bien entendu de celui qui l'a inventé, cette haute couture. Ce Wörth qu'on retrouve d'ailleurs dans les Rougon-Macquart de Zola, en fait. Hein, c'est...
Absolument, il va...
Le nom est à peine modifié, d'ailleurs.
Oui, il va l'appeler Worms. Mais l'idée c'est de célébrer ce roi de Paris qu'il est devenu, non seulement par la notoriété qu'il a à l'intérieur même de la capitale, mais dans toute l'Europe. Et ça va être, au fond, une sorte de publicité avant la lettre, qui n'a pas dit son nom, mais qui va être comme une traînée de poudre et qui va permettre à la France de rayonner dans ce domaine.
Avec un certain sens du faste, parce que, évidemment, comme on parle de l'impératrice Eugénie, de l'impératrice Sissi, de la princesse de Metternich, on est encore à l'époque des grandes robes, des crinolines, des traînes, etc. Fabrice Léonard.
Oui, puis il y a des règles de bienséance, mais je pense que des couturiers comme Wörth ou Poiret plus tard, mais comme Wörth ou la sœur Callot, comme on est à une époque où les grandes cours, les grands bals reviennent, les femmes doivent s'habiller.
Oui, et les balles donnent le ton, en quelque sorte. Alors, c'est très bien pour l'industrie du tissu, c'est parce que les crinolines, ça suppose des métrages impressionnants, Yann Kerlot.
Des métrages de tissu impressionnants, et Wörth va encore faire une chose qui est tout à fait innovante. Il va être le promoteur de la théorie de l'exclusivité des tissus. C'est-à-dire qu'il va exiger que les maisons qui travaillent pour lui, qui ont l'honneur, entre guillemets, de travailler pour lui,
ne travaillent que pour lui.
Oui. Et donc, ça va être une véritable révolution à l'intérieur des maisons de soyeux lyonnais. Il va tenir la dragée haute à tous ses drapiers et il va les mener un peu tambour battant, puisqu'il va à la fois les convaincre que travailler pour la maison Wörth, c'est un honneur, et en même temps qu'il faut qu'il lui donne l'exclusivité de leur fabrication.
La notoriété est telle qu'il peut donc signer ses créations en quelque sorte. Ça aussi c'est nouveau. Hein.
Alors oui, il va faire quelque chose qui à l'époque est considéré comme proprement scandaleux. Il va mettre son nom à l'intérieur des robes qu'il a vendues. Alors il y a deux types de réaction.
C'est l'invention de la griffe, quoi, en fait. Hein.
Absolument, c'est l'invention de la griffe. Il y a les femmes de la cour qui sont furieuses et qui trouvent qu'il a une prétention absolument inqualifiable. Et puis les autres, que celles qui sont plutôt dans le domaine des courtisanes,
plus
qui
noble,
vont dire, au fond, c'est formidable, on a une tenue qui est extraordinaire, puisqu'elle est portée par les femmes de la cour, et en même temps, elle est griffée par le couturier. Oui, donc à l'époque, c'est... on dit simplement marqué. On n'utilise pas le terme
le
de
le terme
griffe.
De griffe encore. Oui. Mais donc il y a la volonté quand même de s'aligner sur ce qui se fait, bien entendu, autour de l'impératrice, etc. Il y a cette notion.
Oui, parce que c'est un modèle.
Et plus tard aussi, parce que je parle de l'impératrice, mais évidemment, Vort va perdurer bien après le Second Empire.
Mais en fait, ça nous permet, si vous voulez, d'aller au-delà et de réaliser à ce moment-là que ces femmes qui sont des modèles, comme les impératrices que vous venez de citer et dont on a parlé tout à l'heure, elles deviennent aussi, d'une certaine façon, des publicités vivantes pour la couture.
Alors, évidemment, chacune de ces grandes faiseuses de mode va bientôt avoir son créateur. Parce que ce qui est amusant, c'est qu'au début, Vort est à peu près le seul. Et puis, petit à petit, on voit les maisons se développer, bien entendu. On essaie de copier son modèle.
Mais tout le monde veut s'avancer sur le même créneau, qui est un créneau qui marche extrêmement bien.
Si je puis me permettre, pardon, Yann Carlo, mais il faut rappeler, bien entendu, qu'à l'époque, le prêt-à-porter n'existe pas du tout. On est obligé de recourir au service de couturières, qui parfois sont de simples petites couturières de quartier, mais on fait faire soi-même ses vêtements, par définition. Hein. Donc, alors, il y a le début des grands magasins, effectivement, qui vont commencer à vendre des vêtements, mais le prêt-à-porter ne viendra que beaucoup plus tard. Donc, la haute couture s'inscrit quand même dans une tradition. Elle n'est que la partie supérieure de tout l'édifice, en quelque sorte. Mais grâce à Vort, elle acquiert des lettres de noblesse.
En même temps, c'est un passage pour faire rêver l'ensemble des femmes
voilà.
à une destinée tout à fait extraordinaire qui n'est pas leur destinée au quotidien, mais qui les porte à se dépasser.
Alors, quels sont les grands noms? Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme grands noms de ces couturiers, on va dire, de la belle époque maintenant, de la fin, de toute fin du 19e siècle?
Bon, on va commencer, alors je pense que là aussi, allez-y, je vous en prie, allez-y.
Il y a les sœurs Callot, mm-hmm. qui ne sont pas que deux, mais qui sont...
Elles sont quatre, hein, je
quatre,
crois.
Quatre, qui en fait, elles commencent en se spécialisant dans la dentelle et les parures. Et puis à un moment, elles se lancent dans le vêtement, elles mélangent...
Elles sont au début accessoiristes, et puis oui. petit à petit, elles glissent, si l'on peut dire, vers la haute couture. Hein.
Et puis elles mélangent... Elles se font une spécificité des vêtements avec des dentelles, qui à l'époque étaient considérées comme des vêtements très fragiles, mais en fait, elles créent des robes pour le jour, en dentelle. Elles mélangent de la fourrure, ce qui ne s'était jamais vu. Elles utilisent même des tissus anciens, qu'elles mélangent avec la fourrure et des dentelles pour créer un style. Et puis...
Ce qui veut dire qu'il y avait quand même des femmes dans ce, et d'emblée dans ce monde. Il y aura un petit peu plus tard Madeleine Vionnet, bien entendu. Ça n'est pas un monde exclusivement masculin, comme il le deviendra vraiment au XXe siècle, au milieu du XXe siècle.
Non, parce qu'il y a aussi l'arrivée de Gabrielle Chanel.
Alors oui, il y aura Mademoiselle Chanel.
Qui est au milieu de la mode et qui va être peut-être avec Yves Saint Laurent et
Christian Dior. Elsa aussi un peu.
Le trio le plus célèbre de tout le XXe siècle.
Mais ces femmes, en quelque sorte, ont par rapport à Vort, elles apportent quelque chose de plus quotidien, de plus facile dans
elles
la façon.
Elles apportent quelque chose qui est effectivement à la fois plus quotidien, pas nécessairement meilleur marché, parce qu'elles sont toujours aussi sur le créneau de la haute couture, mais elles vont changer la silhouette de la femme. C'est le cas évidemment pour Gabrielle Chanel, ce sera le cas également pour Madeleine Vionnet, d'une manière un peu différente, avec ce qu'on a appelé l'invention du biais.
Alors dans un instant, nous venons à Paul Poiret, dont j'ai dit un mot dans l'introduction, qui a beaucoup marqué cette notion de haute couture.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Mode, élégance, créateur, tendance, la haute couture est à l'honneur sur Europe 1, Franck.
Et oui, avec Fabrice Léonard, qui s'occupe de tout ce qui concerne la mode au point, et Yann Carlo, les secrets de la mode chez Perrin. Donc vous nous racontez en quelque sorte cette grande saga. Alors je parle de Paul Poiret depuis le début, parce que c'est évidemment l'archétype du grand couturier. C'est l'image que l'on a, bien entendu. Hein, c'est l'homme, on va dire, sans limite, en quelque sorte. Qui transforme le rêve en réalité.
C'est l'homme d'un destin, Paul Poiret. C'est-à-dire, c'est un homme qui va aller jusqu'au bout de ses fantaisies, mais qui avait une première ambition, qui était d'être riche. Il voulait absolument être riche, il voulait gagner des sommes colossales. Il s'est dit, je serai la personne la plus importante dans le domaine de la couture. Il va faire une révolution, il va supprimer le corset.
Et rien. Il va, des là siècles aussi, de torture qui s'arrêtent.
Changer la silhouette des femmes. Et en même temps, il va s'opposer à Gabrielle Chanel, dont il disait la mode de Gabrielle Chanel, c'est la mode des télégraphistes, c'est-à-dire la petite robe noire et le jersey, deux choses qu'il abhorrait. Et il va au contraire lui proposer le faste, le rêve, des tissus, des mousselines, tout ce qu'il y a de plus cher, et il va être lui-même le metteur en scène de sa propre vie.
C'est-à-dire qu'il fait parler de lui.
Il fait parler de lui, il est à la fois...
De la presse populaire, faut dire ça, c'est-à-dire la presse triomphante, et il est le premier le premier des couturiers à le comprendre et à donner prise, en quelque sorte, à toutes sortes de, j'allais dire, de légendes, en tout cas, de propos que l'on tient sur lui. Il vit sur un très grand pied.
Il rêve d'un hôtel particulier, il l'acquiert, il en acquiert trois, dans le périmètre de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de la rue du Colisée. Il va acheter des collections tout à fait extraordinaires. Il va dépenser sans compter. Il est d'une générosité folle avec ses amis. Il donne des banquets. Il donne des fêtes qui sont les plus célèbres de Paris, dont Bonnie Castellane parlera. C'est l'homme du faste absolu.
Il aura, on le disait pendant l'interruption, là, il aura ses trois célèbres péniches sur lesquelles il donne d'ailleurs une fête absolument inoubliable. Les péniches qui portaient le nom des trois mots français qui changent de genre lorsqu'ils passent du singulier au pluriel, c'est-à-dire amour, délices et orgue. Un amour et de belles amours. Bon. Et donc, et tout ça, bien entendu, fait partie de, en quelque sorte, on peut dire, de la légende. Et puis, il a un sens commercial, lui aussi, un peu à la façon de Vorte. En 1911, il va créer le premier parfum de couturier. Ça, c'est une révolution, alors là, Fabrice.
C'est sûrement le premier couturier à imaginer, à diversifier son activité. Il crée un parfum, il crée un atelier d'art décoratif où
il y a une marque et on décline en quelque sorte. Hein.
Voilà. Mais à l'époque, ça reste au sein de la maison. Mais c'est sûrement le premier couturier à imaginer décliner son nom sur différents produits qui ne sont pas que des vêtements ou que des robes.
Ce qui est étonnant avec Paul Poiret, c'est que ce faste dont vous parliez, Yann Kerlo, s'inscrit dans une modernité en même temps. C'est un homme qui vit parfaitement avec son temps, qui est à la pointe de tous les progrès stylistiques en même temps. Il est l'ami de Malet Stevens, des années 30.
Il va avoir un virage dans sa vie, c'est qu'après les hôtels particuliers néo-Louis XVI, le château à côté de Paris, il va tout d'un coup avoir des temps un petit peu plus difficiles et il va dire, au fond, j'ai envie de vivre tout à fait différemment. Il va demander à Malet Stevens de lui faire une maison qui est une sorte de paquebot extraordinaire qui malheureusement prendra l'eau de toutes parts puisqu'il n'y aura jamais ni l'électricité ni l'eau et qu'en 1900, le chantier a commencé en 24, en 1925 tout le monde abandonne, personne n'est payé et donc le pauvre Poiret va vivre dans la maison du gardien pendant 2 ans avant de déclarer forfait.
Alors parmi les grandes figures qui vont faire avancer la mode, parce qu'évidemment entre les grands noms que l'on cite là, il y a un très grand nombre d'autres couturiers sur lesquels on n'a pas le temps de s'apesantir évidemment, mais celle qui va tout changer si je puis dire, c'est Chanel bien entendu, hein, c'est cette Gabrielle Chanel, Coco Chanel, à laquelle on a déjà consacré quelques émissions. Alors on disait que Paul Poiret avait libéré la femme du corset, elle va beaucoup plus loin, elle la libère totalement si je puis dire.
Oui, elle la libère totalement, à la fois en utilisant des tissus d'hommes, donc elle bouscule les genres, en disant voilà, je vais utiliser du jersey, je vais utiliser un pull en cachemire sur un pantalon en tweed. Elle révolutionne vraiment le style et on est aussi dans une ère un peu de la tendance de la garçonne. Donc,
elle veut utiliser la marinière, etc. Voilà, on dit que c'est à Deauville que l'idée lui était venue d'ailleurs.
Le succès arrive assez vite. Et puis elle aussi va, en 1921, imaginer le fameux parfum numéro 5.
Alors je vous propose d'entendre la voix de Coco Chanel. Alors on n'est pas dans les années 20, bien entendu, puisque c'est une archive européenne. Voilà ce que disait Madame Chanel au micro de notre reporter.
Que les femmes veuillent être jeunes, je le conçois, c'est très bien, c'est très embêtant de vieillir, j'en sais quelque chose. Seulement, entre ça et être impudique, je trouve ça affreux. Les femmes ne veulent plus ressembler à des femmes, elles veulent ressembler à des petites filles. Alors, à force de ressembler à des petites filles, elles étaient habillées misérablement. Parce que pour se permettre de porter des robes extrêmement courtes, de porter tout ça, il faut y mettre des tissus tellement somptueux qu'on ne les a pas. On ne peut même pas les faire, c'est même pas pensable. Tout de suite, je vous le dis, je déteste les femmes qui s'habillent en hommes, qui veulent ressembler à des garçons, ce sont des idiotes. Elles perdent tout leur charme, les hommes ne les aiment plus. Je l'ai déjà dit, je le répéterai toujours, les hommes n'aiment pas les femmes déguisées en garçons, ça ne leur plaît pas.
Quand j'entends à chaque fois les jugements à l'emporte-pièce de Coco Chanel, je ne peux pas m'empêcher de penser à celui qui lui a succédé dans cette maison, d'un peu loin. Évidemment, c'est Karl Lagerfeld, hein, qui a un peu le même genre de prise de position et de, on va dire, de positionnement par rapport au monde. Yann Kerlo.
Je pense que quand on appartient à la maison Chanel, on doit avoir un ton, un style. Gabrielle Chanel avait un ton particulièrement tranchant. Elle n'était pas l'amie du genre humain, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Et je pense que Karl Lagerfeld, qui a fait énormément pour cette maison, a aussi son franc-parler.
Voici d'ailleurs Karl Lagerfeld, c'est au micro d'Europe 1, c'était en 1983. Je cherchais le nom du journaliste, c'est tout simplement Jean-Pierre Elkabbach.
D'abord, Chanel, c'est pas aussi limité qu'en général les gens pensent. C'est quand on pense Chanel, on voit ce petit tailleur multicolore et la jupe au genou avec la fameuse sandale. Or, dans sa vie, elle n'a pas fait que ça. Ça, c'est un style qui s'est un peu figé à la fin de sa propre vie. Mais quand on regarde la carrière entière, et moi, je regarde l'ensemble de la carrière de Chanel, c'est incroyable la variété des choses qu'elle a fait. Et souvent, j'ai mis certains éléments de ce qu'elle avait fait à ma façon et à la façon 83 dans cette collection, les gens croient que ah, mais ça, elle l'a jamais fait. Mais moi, je peux prouver qu'elle a fait des choses similaires.
Alors, évidemment, l'image tellement forte de Coco Chanel a eu parfois peut-être un peu tendance dans le public à éclipser celle non moins forte, me semble-t-il, et passionnante d'Elsa Schiaparelli, dont il faut dire un mot. Fabrice.
L'Italienne, la reine du surréaliste, l'amie de tous les artistes de l'époque, bah, qui, elle aussi, a lancé des parfums, quasiment en même temps que son prêt-à-porter. Elle s'est fait d'abord connaître par des vêtements de sport, et qui étaient des vêtements où elle imaginait
notamment
des cravates.
De sport d'hiver, hein, notamment.
Oui, enfin, et pas. Où elle imaginait des cravates en trompe-l'œil. Mm-hmm. Et puis après, elle est montée dans les étages Place Vendôme, et d'ailleurs, la maison vient de réouvrir sous la houlette du groupe Della Valle, du groupe Tod's, et les salons sont réouverts quasiment à l'identique avec une marraine assez fastueuse qui s'appelle Farida.
Oui, évidemment. Alors cette Elsa Schiaparelli, elle est la femme des années 30 en quelque sorte, et de la guerre aussi, hein, c'est cette époque-là.
Elle est la femme de la guerre, il faudrait dire quelque chose que je trouve très important, c'est qu'elle a fait campagne aux États-Unis à partir de 39 et 40, elle est partie aux États-Unis et elle a essayé de lever des fonds pour aider les couturiers français. Alors ça, malheureusement, on l'a un petit peu oublié, mais elle était extraordinairement courageuse puisque, bon, je dirais la différence un petit peu de Gabrielle Chanel qui était partie se reposer pendant une bonne dizaine d'années en Suisse. Là, Elsa Schiaparelli a été absolument formidable pour soutenir tous les couturiers français et les maisons qui avaient évidemment fermé ou qui battaient un peu de l'aile pendant la Seconde Guerre mondiale.
Monsieur Dior, c'est à vous dans un instant.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit qui revient maintenant sur le parcours de Christian Dior et forcément donc sur le New Look.
Ah oui, ce New Look a été vraiment la révolution de l'immédiate après-guerre. C'est Marie-Jeanne Vielle, dans un ouvrage que j'adore, alors que j'ai eu souvent l'occasion de citer depuis 10 ans, vous imaginez, qui s'appelle Le roman vrai de la 4ème République, hein, qui était sous la houlette, sous la direction de Guillemin dans les années 70, si ma mémoire est bonne. Et c'est cette Marie-Jeanne Vielle qui nous raconte Dior et qui nous dit qu'il était tout simplement le contraire du personnage couturier tel qu'on pouvait se le figurer dans l'immédiate après-guerre. Il ressemblait plutôt, nous dit-elle, à un conseiller d'État ou à un fabricant d'automobiles. C'était un homme assez grand, confortablement arrondi et qui évoquait le comte Mosca tel que Stendhal l'avait décrit, je cite, « de grands traits, aucun vestige d'importance et un air simple et gai qui prévenait en sa faveur ». Il a 42 ans, Christian Dior, on pourrait presque dire qu'il est sans âge lorsqu'on voit les photos de l'époque, au moment où il présente sa première collection. Alors ça a été un événement absolument phénoménal. Et d'ailleurs les collectionneurs de cartons, ça existe, ça figurez-vous, s'arrachent à prix d'or les cartons d'invitation à cette première présentation, qui n'était pas une soirée du tout d'ailleurs, c'était au contraire un matin. Christian Dior prie madame, avec des petits points, ou monsieur bien entendu, de bien vouloir lui faire l'honneur d'assister à la présentation de sa première collection à 10h30 le mercredi 12 février 1947, 30 avenue Montaigne déjà. Dès 10h, une cinquantaine de personnes étaient là devant l'hôtel. L'hôtel avait été couvert de satin gris. De même, on avait installé un grand dais sur le trottoir. Pas oublier qu'on est juste à la sortie de la guerre et que cette espèce de luxe, d'opulence d'un seul coup était devenue presque inhabituelle. Et évidemment, ça a fait partie du choc qu'ont ressenti les témoins de cette journée. Alors on fait entrer les visiteurs, 3 personnes à la fois, ce qui fait qu'évidemment très vite va se créer une sorte de foule sur le trottoir, mais les gens ne s'en vont pas pour autant. Ils battent le pavé, ils attendent, il fait très froid ce 12 février, mais c'est pas grave, ils attendent d'entrer. On sait très bien que des choses importantes vont avoir lieu ce matin-là. Et on sait aussi que derrière Christian Dior, il y a Boussac. Vous savez, Marcel Boussac, le roi du coton et des champs de course, l'empereur de la toile d'avion. Alors on cherche à savoir exactement quels ont été les termes de l'accord entre Christian Dior et Boussac. Certains disent que Boussac a investi 60 millions dans l'affaire. On est en 47. Hein. D'autres disent non, c'est beaucoup plus que ça. C'est 250 millions. Pendant ce temps-là, on s'engouffre. Alors, il faut imaginer, on entre dans ce hall de la maison Dior, couvert alors de toiles de Jouy, et puis dans un parfum assez extraordinaire, car vous avez des jeunes femmes, des hôtesses qui sont là pour vous accueillir et qui vaporisent ce parfum qui s'appelle Miss Dior. Ainsi, il l'a nommé Christian pour faire plaisir à sa sœur Catherine, celle qui a été déportée, la presse s'en est fait l'écho, et qui est mandataire à la Halle aux Fleurs, la sœur de Christian Dior. Alors, il faut imaginer, bien entendu, la société la plus élégante de cette après-guerre. Les Noailles sont là, bien entendu, et le comte de Beaumont, et Jean Cocteau, enfin, etc. Et on s'installe, bien entendu. Alors, Fabrice Léonard connaît ça par cœur, hein, cette espèce de Yann Kerlo aussi, évidemment, cette espèce de brouhaha, de murmure avant le défilé lui-même. Et puis, la boyeuse arrive. Alors, à l'époque, tout ça est encore un peu cérémonieux, bien entendu. Elle a son papier à la main, elle s'encadre pour décrire le modèle, parce que c'est comme ça qu'on faisait. Numéro 1, number 1, dit-elle. Pourquoi number 1? Parce qu'il y a beaucoup d'Américains et surtout d'Américaines dans l'assistance. La robe qui passe, nous dit Madame Vielle, descend bien au-dessous du mollet. On entendrait tomber une épingle tant le silence est grand. Pas une femme qui ne retienne sa respiration devant cette robe allongée, appuyée à la taille, qui présente la poitrine comme dans une corbeille, qui moule les épaules et leur rend leur courbe naturelle. Oui, parce qu'à l'époque, on sortait de la guerre où on avait des espèces d'épaulettes absolument extravagantes. Des « ah » stupéfaits saluent la seconde robe. Elle est plissée comme le dessous des champignons et virevolte, danse, tourne sur l'écume de cette chose incroyable. Un jupon. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu de jupon. Les bravos éclatent, s'apaisent, reprennent en force. Toutes les femmes inconsciemment tirent sur l'ourlet de leur jupe et les vendeuses restent bouche bée. Et oui, alors on aurait pu nous dire qu'il allait allonger les robes, disent un certain nombre des personnes qui sont là, parce que on ne se serait pas rendu ridicule. Mais on ne se montre pas. Le « on », évidemment, c'est Christian Dior qui va finir par sortir avec le 90e et dernier modèle présenté ce matin-là, modèle de mariée, bien entendu. Il se présente sous les hurrahs de la foule. Et Carmel Snow, qui représente Harper's Bazaar et qui fait littéralement la pluie et le beau temps dans le monde au sens propre de la mode, annonce « Je pars tout de suite, il faut télégraphier ». Et au passage, elle accroche Christian Dior par le bras. « It's quite a revolution, dear », lui dit-elle. « Your dresses have such a new look ». Ça y est, le mot a été prononcé. New look, c'est le terme qui va être retenu. Et alors là, pendant 48, pendant 72 heures, les journaux du monde entier ne vont plus parler que de ça. Les robes descendent vers la cheville. Christian Dior offre aux femmes un new look. Quand je dis toute la presse, sauf la presse parisienne, parce qu'à l'époque, elle est en grève. Elle le restera jusqu'au 16 mars. Vous voyez comme quoi, finalement, on était en 1947. Mais les choses ne changent pas tellement en France. Quoi qu'il puisse m'arriver d'heureux dans la vie, rien ne pourra dépasser ce que j'ai éprouvé à ce moment-là, dira Christian Dior, qui va devenir véritablement alors le roi de la mode. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'évidemment, il commence par se faire des ennemis, et beaucoup d'ennemis, notamment outre-Atlantique, où des stocks entiers, parce que alors là, cette fois maintenant, le prêt-à-porter existe évidemment, et des stocks de robes ont été faits, des stocks avec des robes assez courtes, des jupes assez courtes, et des épaulements absolument massif, et évidemment les industriels se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire de tous ces stocks, il va falloir reprendre toutes ces robes, etc. Et donc évidemment Christian Dior, c'est une catastrophe, les femmes vont mordre comme les mouches à un rayon de miel, dit Henri Bendel, qui est un des plus grands industriels, des plus grands propriétaires, je devrais dire, de l'époque. D'ailleurs, c'est assez phénoménal ce qui se passe, puisque Christian Dior va être obligé de faire le voyage, il s'en va aux États-Unis, hein. Il prend le Queen Mary, à l'époque c'était comme ça, et il fait la traversée pour aller expliquer aux Américains cette espèce de révolution à l'œuvre. Il va finir par triompher. On peut dire que le new look s'impose, qu'il s'impose facilement comme une sorte de réaction à toutes les rigueurs et à toutes les
privation, de la guerre, il devient synonyme de glamour. Et figurez-vous que moins de 2 ans plus tard, en 1949, 75% des exportations de l'ensemble de la couture parisienne porteront la griffe de Christian Dior, vous imaginez. Et cette même griffe représentera 5% du volume total du commerce extérieur français. C'est complètement fou. Ce qui fait qu'évidemment, on va décerner la Légion d'honneur à monsieur Christian Dior. Et le ministre du Commerce qui lui remet cette Légion d'honneur va dire: lorsque Napoléon remit la Légion d'honneur à Richard Lenoir, celui du boulevard et du métro, et grand fabricant de tissus qui avait gagné à la France des marchés étrangers, il lui dit « Monsieur Richard Lenoir, ce que vous avez fait vaut une victoire ». Eh bien, on peut dire la même chose à Christian Dior, ce qu'il a fait vaut une victoire, et ça coûte moins cher, sauf à ses clientes, bien entendu.
« T'es allé si vite aujourd'hui, grâce à Dieu, dois-je dire adieu ?» J'ai un petit bureau à la droite de Dior, dois-je dire de Dieu. Un beau jour plaise à Dieu, ou peut-être à Dior, sûrement aux deux. La mode m'accueillera comme le nouveau Dieu.
À la droite de Dior, Alain Chamfort sur Europe 1. On se retrouve dans un court instant juste après ça. À tout de suite.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dans le monde de la haute couture aujourd'hui sur Europe 1, nous vous délivrons les secrets de la mode.
Dior drape la France aux couleurs de l'audace. Ses atours ouvrent l'ère du faste retrouvé. Son regard embrasse l'horizon. Derrière lui, les industriels du textile retrouvent une fièvre et une ferveur créative que la guerre avait ensevelie. Les soyeux de Lyon se remettent au travail, tandis qu'à Calais, à Bruges, les denteliers ne touchent plus terre. Un miracle s'est produit. Seul bémol au triomphe de Dior, une première crise cardiaque le frappe à la fin de l'année 47. Première alerte que le succès lui fait oublier, écrit Yann Kerlo dans Les secrets de la mode qui vient de paraître chez Perrin. C'est un homme qui a évidemment joué un rôle absolument déterminant. Alors on ne va pas s'éterniser sur le cas de Christian Dior, parce que j'aimerais, dans le peu de temps qui nous reste, qu'on évoque un certain nombre d'autres noms mythiques, à commencer par votre préféré, à vous Yann Kerlo, c'est Balenciaga.
Oui, Balenciaga, on pourrait l'appeler le roi de l'épure. On est à l'opposé total du prêt-à-porter, puisque c'est un homme qui n'aimait pas tellement les journalistes, je suis désolé, et qui ne voulait pas les recevoir.
Il n'y a pas de journaliste ici.
Surtout, vivait dans ce cénacle et ce sérail de la haute couture. Il a été considéré par tous les autres qui l'ont suivi comme le grand maître de la coupe. Il savait tout faire. Il savait dessiner, il savait coudre, il savait couper.
Oui, donc c'est vraiment...
Ce qui est quelque chose de formidable, puisque Gabrielle Chanel elle-même disait qu'elle ne savait pas dessiner et qu'elle n'aimait pas tellement coudre. Donc là, c'est le contraire absolu.
Alors, on parlait de New Look et de Christian Dior. Celui qui va, en quelque sorte, s'imposer comme l'héritier de tout ça, c'est Yves Saint Laurent.
Mais qui Fabrice. Reprend, au décès de Monsieur Dior, qui reprend les collections à partir de 1957. Et en fait, en 61... il ouvre sa maison de couture, rue Spontini, dans le 16e arrondissement. Mmh. Et avec Saint-Laurent, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est sûrement le couturier contemporain qui est le premier à faire le pied de nez à toute cette clientèle de haute couture en ouvrant en 64 une division de prêt-à-porter qui s'appelle Saint-Laurent Rive Gauche, et il installe une boutique rue de Tournon, sur la rive gauche de Paris. Alors c'est scandale complet, parce qu'on ne va jamais s'habiller
virage
rive
total,
gauche.
Oui.
On s'habille rive droite.
On achète les livres rive gauche, voilà. Et on s'habille rive droite d'habitude, oui.
Et ça a marché, puisque ça a fonctionné. C'était les prémices de vraiment la libération de la femme. Les femmes avaient envie, parce que parce qu'elles bougeaient, parce qu'elles travaillaient, elles avaient envie d'une mode moins lourde à porter au quotidien.
Et puis une mode peut-être plus attrayante aussi, hein. Il y a un côté...
Une mode plus attrayante, une mode qui transgresse. Il sera le premier à faire défiler des mannequins noirs, ce sera un scandale. Mm-hmm. Il sera le premier à mettre les femmes en pantalon réellement, comme un vêtement quotidien, ce qui va changer leur démarche, leur manière de s'asseoir, leur manière d'évoluer et leur manière de vivre. Et donc il va aussi appliquer le vestiaire masculin à la femme, avec le succès que l'on sait pour le smoking et tous ces vêtements qui deviendront des vêtements du soir et du jour.
Oui, c'est, et qui vont en quelque sorte donner des idées aux autres. Il y a toujours cette espèce de regard de côté chez les couturiers pour voir ce qui se fait dans les autres maisons. Est-ce qu'il y a cette impression? Et est-ce que surtout, on s'inspire de ce qui s'est fait dans le passé? Fabrice
Léonard.
Moi,
je trouve qu'il y a une grande tendance qui s'appelle la rétromania, l'œil dans le rétroviseur, actuellement. Peut-être parce que il faut proposer aux clientes et aux clients du monde entier des collections à la fois rassurantes mais créatives. Je dois dire, on va revenir deux secondes sur Christian Dior, mais le nouveau directeur artistique Raph Simons, qui est un Belge, qui est plutôt issu du design, a sûrement capté justement l'essence de Dior et le remet au goût du jour avec des collections extrêmement modernes, voire quelque peu futuriste.
Alors, nous n'avons plus de temps, ça tombe bien, parce que c'est toujours ennuyeux de parler de créateurs trop récents et qui sont encore d'actualité, évidemment. Je n'ai pas eu le temps non plus de donner les réactions de nos auditeurs. Guillaume nous demande d'où vient cette robe de mariée à la fin des défilés. On sait qu'elle a été le premier à...
On ne sait pas qu'elle a été le premier à le faire, mais je trouve que c'est un beau rêve, parce qu'on termine sur un rêve, c'est-à-dire une nouvelle destinée pour la femme mariée, et je trouve que c'est un joli clin d'œil à l'avenir des femmes.
Yann Kerlo, Les secrets de la mode, c'est édité chez Perrin. Et alors évidemment, vous trouverez dans ce livre tous ceux que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui, puisque loin d'épuiser une matière, nous n'avons fait qu'en effleurer la fleur. Alors évidemment, c'est plus difficile de citer tous vos travaux, Fabrice Léonard, parce qu'il faut aller chercher dans les piles de magazines, bien entendu. Le dernier numéro du Point, celui qui est encore en kiosque, enfin en tout cas si on arrive encore à le trouver, était spécial mode, hein, justement, et vous faisiez le compte-rendu de cette Fashion Week et vous entriez dans les coulisses de Dior, justement.
Oui, il y a quelques numéros, j'ai eu la chance de rentrer dans les ateliers de la haute couture de Dior et de suivre tous les coulisses et la préparation du défilé, le fameux J-36 ou juste avant. Et l'ambiance est assez...
Électrique.
Électrique et à la fois très paisible.
Ah bon, comme quoi il faut être zen peut-être pour créer. Merci beaucoup à vous deux.